Quand j'étais au cœur de la tornade, j'ai jamais douté de quoi que ce soit. Et bien au contraire, c'était pour moi le dernier refuge que j'avais.
Pour cette dernière semaine de l'Avent, sur le thème « Accueillir le prince de la paix », nous vous proposons d'entendre le témoignage de Sœur Samuelle, ermite diocésaine, dont le chemin de reconstruction s'est fait notamment grâce à la mosaïque.
Renaître à la vie, ça se fait parce qu'on en a le désir, qu'on pousse de toutes ses forces dans cette direction, et même si parfois on n'a plus de force, on fait ce qu'on peut, et c'est déjà beaucoup, mais aussi parce que d'autres autour poussent avec nous, et nous poussent à ça. Et ça, faut savoir le cueillir, et l'accueillir, et s'appuyer là-dessus. Je suis artiste mosaïste, donc je fais de la mosaïque sous forme de tableaux que j'expose régulièrement dans des lieux divers et variés. Et c'est une mosaïque qui n'est pas explicitement chrétienne ou sacrée, c'est-à-dire que je ne représente pas des Jésus, des Marie et des Joseph, mais je fais une mosaïque plutôt abstraite, donc il y a une forte dimension spirituelle sous la forme de l'abstraction. Je suis rentrée donc dans une communauté religieuse assez jeune, à l'âge de 21 ans, après avoir fait mes études. Comme on y rentre à 21 ans, c'est-à-dire avec un grand élan à la fois de générosité, de désir de se donner tout en entier, avec une forme d'idéalisation de ce qu'est la vie religieuse, ce qui est un petit peu inévitable en fait quand on débute. J'y suis restée pendant 20 ans. Pendant ces 20 ans, j'ai vécu des choses difficiles de l'ordre de l'abus spirituel et de l'abus psychologique par la communauté en elle-même. J'étais totalement incapable d'identifier à l'époque, ni moi ni d'autres d'ailleurs. J'avais jamais entendu parler de ça et on n'en entendait jamais parler d'ailleurs à l'époque. Tout ça a fait que j'étais pas bien. Parallèlement à ça, j'ai vécu plusieurs années à Rome, envoyée par cette communauté. J'ai intégré un atelier de mosaïque, qui est toujours dirigé d'ailleurs par un prêtre artiste un peu connu qui s'appelle Marco Rupnik, jésuite à l'époque, qui a été renvoyé de la Compagnie de Jésus depuis. Ce prêtre, j'arrivais dans son atelier déjà un peu affaibli, déjà un peu perdu, intérieurement, psychologiquement parlant, parce que j'avais vécu en communauté. Et cet homme s'est servi en fait de ce terrain très vulnérable qui était le mien pour peu à peu tisser une emprise assez forte sur moi pendant plusieurs années, une emprise psychologique avec des liens de dépendance, de manipulation de la conscience personnelle, de l'empêchement d'exercice de la liberté personnelle, de pensée, même presque de mouvement en quelque sorte. J'osais plus trop bouger, j'osais plus faire certaines choses pour dire jusqu'où c'est allé. C'était une emprise aussi avec un caractère quand même assez sexuel, parce qu'il y a eu des gestes qui ne sont pas allés jusqu'à l'ordre de l'agression sexuelle au sens légal du terme, et juridique du terme, mais avec des gestes qui étaient tout à fait déplacés et qui m'ont mise très mal à l'aise. Le simple fait de poser avec insistance des mains sur des épaules, dans un dos, de caresser un dos, de jouer avec la tache d'un soutien-gorge, même par-dessus un vêtement. En fait, quand c'est répété à plusieurs reprises, quand vous manifestez votre désapprobation, votre mécontentement, mais que le prêtre en question fait tout pour continuer, fait une forme de chantage au renvoi aussi, peu à peu, l'étau se resserre et vous perdez totalement votre liberté. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis restée un peu plus de 4 ans dans cet atelier. J'ai profité de l'échéance de ces 4 ans, parce qu'il y avait une échéance de formation pour lui, pour partir, pour fuir. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une fuite qui s'est opérée, même si je suis partie extérieurement sans fuir dans des conditions apparemment normales. J'étais très mal et donc je suis revenue en France et assez rapidement je me suis écroulée, je me suis effondrée d'un mal-être récurrent avec des manifestations physiques et psychologiques difficiles à vivre, ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Je poussais des cris, je dormais plus, enfin c'est allé assez loin, je me suis automutilée. Donc c'était des choses assez violentes, je me suis fait aider, je me suis fait traiter pour ça. Et c'est au long de ce long parcours de relèvement que d'abord j'ai pu faire la part des choses de ce qui s'était passé, ce qui est très important, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Et puis surtout j'ai essayé de reconstruire ma vie avec tout ça, de ne pas me laisser sombrer là-dedans. Alors quand je le dis, j'ai l'impression que c'est très simple à dire et assez linéaire. Dans les faits, c'est beaucoup de pas en avant et de pas en arrière, beaucoup de pas de côté. Beaucoup de sentiments de stagner, de ne plus rien voir, de penser que jamais on s'en sort, qu'on sera toujours rattrapé par cette histoire, que plein de choses dans la vie vous rappellent à ça, vous remémorent des choses. Moi, par exemple, j'ai continué à faire de la mosaïque. Or, ce prêtre, il m'a appris en grande partie la mosaïque. Donc, il a fallu que je trouve aussi mon chemin là-dedans. Pendant tout un temps, j'ai reproduit ce qu'il m'avait appris. Et puis au bout d'un moment, ça devenait insupportable en fait de reproduire. Je passais à travers mes mains quelque chose qui était à la fois de moi parce que c'était mon travail, mais qui n'était pas de moi, qui avait été contraint par lui. Et ça, il y a un moment où j'ai pris conscience, après quelques années, que c'était plus possible. En fait, je ne supportais plus de reproduire ce que j'avais appris. Et c'est à partir de là que, peu à peu, les choses se sont mises en place pour que je sois en mesure, moi, de faire autre chose. Et à travers cet art très précis de la mosaïque, bah de continuer, parce que, en fait, c'est quelque chose que j'aime faire, et je crois que je suis faite pour ça, que c'est vraiment un langage qui me convient, mais un langage que je devais... réapprendre, sur lequel je devais appliquer une autre grammaire en fait, un accent qui m'était propre. J'ai pris conscience, après plusieurs années d'aide, de thérapie, que déjà depuis que j'étais pas bien, je passais mes journées à recoller des morceaux. Et un jour j'ai vraiment eu cette conscience vive et très profonde que, au-delà de la métaphore, pour moi c'était une réalité. C'est-à-dire que je peux mettre à côté une petite tesselle, un petit morceau de feuille d'or, qui a une vraie valeur marchande, et puis qui a une valeur esthétique, à côté d'un très simple galet qui vient d'une rivière, qui a été poli par le temps, qui n'a aucune valeur marchande et sur lequel on peut marcher, qui est insignifiant, devant lequel personne ne s'arrêtera jamais. Et en mettant ces deux éléments ensemble, tout à coup l'or est embelli par le galet, et le galet est embelli par l'or. Et peu à peu, j'ai pris conscience que cette réalité très concrète de mon métier était en fait une réalité humaine très profonde, et même une réalité spirituelle très profonde. C'est que ce que moi je considérais dans ma vie comme un échec, comme à jeter, comme à cacher, comme à effacer de mon histoire parce que ça avait pu être insupportable, en fait ces éléments-là n'étaient ni à jeter, ni à cacher, ni à masquer, ni à oublier. Ils étaient à accueillir pour ce qu'ils étaient, et ils étaient à mettre en dialogue avec d'autres éléments qui allaient les embellir, les magnifier et leur donner une autre valeur et une autre dimension. Évidemment, vu les secousses un peu sismiques que j'ai traversées par mon histoire, cette fois elle a été mise à rude épreuve. Quand j'étais au cœur de la tornade, j'ai jamais douté de quoi que ce soit, et bien au contraire, c'était pour moi l'unique et le dernier refuge que j'avais. J'ai souvenir de moments très précis où j'étais à la fois terrifiée, où j'avais peur. J'avais l'impression que ma vie était en jeu tellement je subissais des choses terribles. Et en même temps, j'étais en mesure et j'étais capable de me répéter des paroles très précises de l'écriture auxquelles je me raccrochais. Et il y avait cette toute petite lueur dans la nuit de mon mal-être qui me faisait tenir. Comme une prophétie, vraiment, et tout à coup, l'intuition d'une direction à quelqu'un qui serait complètement perdu dans un désert. Ensuite, il y a eu un second temps, presque moins facile du point de vue de la foi, les années de reconstruction, qui ont été des années pour moi de mise à plat, des traumatismes, de mes propres vulnérabilités, du pourquoi tout ça avait pu avoir lieu, comment ça s'était mis en place. Donc, c'est assez secouant, en fait, de faire ce travail. C'est difficile. Il faut avoir l'honnêteté, l'exigence de vérité personnelle, d'inclure la dimension de foi dans ce travail. J'y suis pas allée de bon cœur, si je puis dire. C'était difficile parce que tout à coup, j'osais remettre dans la lumière d'une vérité plus large ce que j'avais reçu et ce qui m'avait toujours fait vivre. Et non seulement ma foi, mais aussi le fait que j'avais donné ma vie intégralement à la foi à travers la vie religieuse. J'ai trouvé ça très fragilisant. Je me sentais en fait toute nue en faisant ce pari-là. Mais j'ai jamais regretté de l'avoir fait. Je pense que c'est à ce moment précis d'avoir la sensation de toucher un fond, c'est-à-dire d'aller au fond du fond de ce qui m'habitait, aller au fond de mon cœur, et le fond de mon cœur et de ma conscience, pour moi, était habité par Dieu. En tout cas, c'était là que je pouvais le retrouver. Et en allant jusque-là, j'étais à la fois très affaiblie et en même temps très en vérité. C'était une expérience de vulnérabilité, de simplicité, de faiblesse, d'appauvrissement total. Et en fait, à travers ça, le temps faisant son œuvre aussi, je me suis rendu compte que quelque chose ne partait pas, ne disparaissait pas. Et que ce quelque chose, ce n'était pas tant ma volonté de voir Dieu en tout, que très simplement, cette présence de Dieu silencieuse imperceptible, mais d'une puissance extraordinaire qui était toujours là. Et en fait, à partir de ça, la vie a repris son cours. Alors, ça n'a pas changé grand-chose à mes difficultés, au dur labeur de reconstruction, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en toile de fond, il y avait cette certitude qui était là. Peu à peu, j'ai vraiment pris conscience, à travers le regard des autres, à travers les mains tendues autour de moi, que le Seigneur était toujours là et que jamais, jamais il ne partirait. Et moi, à travers cette présence, j'ai senti en fait que pour moi, être pleinement vivante et pouvoir déployer la vie qui était en moi, ça se ferait en continuant à être religieuse. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens parfois qui m'ont dit « Mais est-ce que t'as pardonné ?» Je suis incapable de répondre oui ou non à la question. La question du pardon s'est peu à peu éclaircie, pour moi, à la lumière d'un texte, La résurrection de Lazare. C'est un ami de Jésus. Lazare a deux sœurs, Marthe et Marie. Jésus va visiter la famille parce que Lazare est mort. C'est le seul moment de l'évangile où on voit Jésus pleurer. Et tout à coup, il a cette phrase surprenante, alors que Lazare est au fond d'une grotte, dans des bandelettes, comme on ensevelissait les morts à l'époque. Il lui dit « Lazare sort dehors ». Lazare sort, et le Christ a cette phrase pour les personnes qui sont présentes. Il leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Et en creusant ce texte, je me suis rendu compte que le terme grec utilisé dans l'évangile de Jean, « laissez-le aller », est le même terme que nous utilisons dans le Notre Père quand nous disons « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Avant de signifier « pardonner », ce terme signifie, comme dans l'évangile de Lazare, « laisse aller, laisse partir, laisse s'en aller ». En quelques mots, laisse partir ce qui te retient, laisse partir ce qui te noue, ce qui te lie, ce qui te contraint, ce qui t'empêche de vivre. C'est laisser aller quelque chose qui m'a maintenu dans la mort, qui en tout cas m'a entravé dans la vie, dans une vie très humaine, mais aussi dans une vie beaucoup plus spirituelle, dans ma relation avec Dieu. C'est sûr que ce que j'ai vécu a eu des conséquences dans ma relation à Dieu. Ça m'a empêché tout un tas de choses. Mais tout à coup, laisser aller ce que j'ai vécu, en entendant le Christ me dire « laisse-le aller ». Ça, pour moi, c'est une vraie dimension du pardon qui m'est offerte et sur laquelle je peux travailler. Parce que c'est un chemin, ça vaut le coup de le prendre. Ça nous modifie, ça nous fait avancer. Non seulement on fait un chemin soi-même, sous le regard de Dieu et vis-à-vis des autres, mais je pense qu'on fait aussi un chemin vis-à-vis de l'autre qui nous a fait du mal. C'est-à-dire qu'on le laisse aller, on le renvoie aussi à lui-même, à sa propre conscience, à son propre chemin. Ça aussi, c'est une porte qui est ouverte pour que l'autre puisse faire son chemin. Accueillir le prince de la paix au milieu d'épreuves personnelles lourdes, ça ne peut pas se faire tout seul. Pour moi, c'est peut-être un peu une lecture aujourd'hui que je fais des évangiles de la nativité qui a beaucoup changé ces dernières années. Cette vie fragile qui naît à travers un nourrisson, elle vient au monde parce que il y a du monde autour qui est là, qui rend possible cette venue au monde. Déjà, il y a eu Marie et Joseph, mais il y a eu aussi d'autres personnes qui peut-être même n'ont pas favorisé la naissance. L'auberge qui ferme sa porte a dû être une épreuve, mais a permis que le prince de la paix vienne au monde dans une grotte, au cœur de la terre, dans ce qu'il y a de plus enfoui, de plus profond, même de la création. Et ça, c'est d'une force inouïe. Moi, j'ai vraiment fait l'expérience que j'ai pu et que je peux et que je continue à chercher la paix, la lumière, la vie au milieu de tout ça, parce qu'il y a eu des personnes autour de moi qui parfois savaient et parfois qui ne savaient rien de mon histoire, mais qui étaient là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne parole. J'ai essayé de cultiver une certaine sensibilité à ces présences-là. Quand je reparcours toutes ces années, je me dis, à tel moment, il y a eu telle personne qui a été capable de m'accueillir de telle manière. Et en fait, j'avais tellement besoin de ça à ce moment-là, sans même m'en rendre compte. Et heureusement que cette personne était là. Peut-être aussi qu'on peut apprendre à voir tout en Dieu. Tout ce qu'on vit, toutes les questions qu'on porte, toutes les épreuves qu'on traverse et qu'on endure, comme un lieu sécurisant. Sécurisé, on sera toujours le bienvenu, on pourra toujours se réfugier, où la porte est toujours ouverte dans les deux sens. C'est l'extrême mystère de Dieu qui nous respecte jusqu'au fait de ne jamais nous forcer, d'être à la fois tout puissant et tout puissamment démuni face à nous.